Bonjour à tous et bienvenue sur Bac FM 106.1 dans l'émission « À quoi qu'on joue ?», votre émission mensuelle sur le jeu et sur l'actualité ludique dans la région de Nevers. Je suis Daoud du Conservatoire du jeu, j'animerai cette émission. Comme tous les mois, je reçois un invité qui vient nous livrer son actualité ou partager avec nous sa passion. Aujourd'hui, je reçois Christophe Leclerc, auteur de jeux de plateau, qui vient nous parler de son jeu fraîchement sorti chez Sweet Game, Biathlon Crystal Globe. Alors, sans plus attendre, bonjour Christophe.
Bonjour à tous.
Bienvenue dans À quoi qu'on joue.
Merci beaucoup.
Alors, comment ça va ?
Ça va bien.
Bon, c'est une bonne chose alors. Alors, Christophe, tu viens donc aujourd'hui pour nous parler de ton nouveau jeu qui vient de sortir. Est-ce que tu pourrais, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, te présenter en quelques mots pour nos auditeurs ?
Oui, eh bien, rapidement, je suis originaire de la Nièvre déjà, donc je suis dans mon fief.
Très bien.
J'ai passé toute mon enfance à Saint-Benin-d'Azy.
D'accord.
Et puis après, j'ai bourlingué un petit peu grâce au football.
Ouais.
J'étais joueur professionnel et j'ai bourlingué un petit peu dans Saône-et-Loire, dans le Midi, à Sept, dans l'Hérault.
Ah oui, bourlingué. Ouais.
J'ai fait un peu de chemin pendant 14 ans.
D'accord.
Et puis, j'ai terminé à rendre au sport ce qu'il m'avait donné.
Ouais.
C'est-à-dire, je suis devenu éducateur sportif pour terminer ma carrière.
Très bien. Tout ça dans la Nièvre ?
Non.
Non.
Alors, donc je suis parti, dans un premier temps, j'avais 18 ans, j'ai commencé à jouer à Nevers quand ils étaient à un bon niveau. Je suis parti à Lyon, je suis parti à Guignon, je suis parti à Sept, à Monceau-les-Mines, et je suis revenu sur Decize, où j'ai terminé ma carrière à Nevers en tant qu'entraîneur. J'ai été manager pendant 20 ans.
D'accord.
Et j'ai terminé ma carrière à Nevers en tant qu'éducateur sportif.
Très bien. Alors, tu sais que notre émission s'appelle « À quoi qu'on joue ?». Alors, et toi, Christophe, dans la vie, à quoi tu joues ?
Moi, je joue tout le temps. Parce que je pense que le jeu, c'est la vie. Quand on ne joue plus, c'est qu'on est mort, pour moi.
Alors, c'est une très belle philosophie.
Il faut jouer dans tous les domaines. Il faut avoir l'esprit ludique pour occuper ses journées, sa vie. Il faut être passionné par quelque chose. Et le jeu est forcément une source de passion. Tous les jeux sont une forme de passion, et ça c'est la base de la vie pour moi, le jeu.
Alors, tu penses qu'il y a un lien entre le fait que tu aimes le jeu et ta carrière professionnelle dans le sport ?
Oui, parce que le jeu procure ces doses d'adrénaline indispensables au chemin qu'on parcourt, pour moi. Donc le sport, forcément, le résultat, la compétition, l'opposition, procure toutes ces doses d'adrénaline qui me sont indispensables.
D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a certains jeux que tu pratiques chez toi, à part ceux que tu as pu faire ?
Oui. Oh, j'ai beaucoup joué. Hein. J'étais forcément un joueur de société. Dans le monde professionnel du football, j'ai rencontré des gens identiques à ma personnalité. Donc,
d'accord.
On a créé à l'intérieur de notre groupe un petit club de jeux, et on jouait régulièrement à des jeux assez classiques qui sont risques. On s'est un petit peu amusé à aller un petit peu plus loin dans les jeux de stratégie. Je me rappelle d'un jeu qui s'appelait Diplomatie.
Tout à fait.
Qui était assez costaud.
Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire.
on a eu du mal quand même à pouvoir jouer et à être logique. Bon, sinon, tous les jeux un petit peu connus, Scotland Yard, Labyrinthe.
Ah, les grands classiques du jeu de plateau, ouais, super, ouais.
Ah ouais, ça, je jouais beaucoup à ça, et ça m'a toujours passionné.
Et d'ailleurs, Scotland Yard, on en est à sa 6e ou 7e réédition. Le principe du jeu, pour nos auditeurs qui connaîtraient pas, Scotland Yard, en fait, vous êtes un agent de la police de Londres, de Scotland Yard, et vous devez découvrir un monsieur mystère, Mr. X, ça dépend des versions du jeu, qui se cache quelque part dans les rues de Londres et qui peut se déplacer par métro, par bus, ou par taxi. Et donc, vous allez émettre des hypothèses sur son placement et lui courir après sur le plateau, bien évidemment, pour essayer de l'attraper. Et c'est un grand, grand classique de chez Ravensburger. Et comme je le disais juste avant, je crois qu'on en est à sa 7e réédition. Il ne quitte pas le catalogue de Ravensburger depuis des années.
Oui, j'ai vu ça dernièrement.
Alors, Donc Christophe, comme je disais en début d'émission, tu es là pour nous parler de ton jeu qui vient de sortir, qui s'appelle donc Biathlon Crystal Globe. Alors, je vais poser une question sans trop de risque. De quoi parle ton jeu?
De fleurs et d'avions.
Ah, d'où le titre alors.
C'est cela. Eh bien, bien sûr, il parle de ce sport que je trouve magnifique parce que il procure beaucoup de doses d'adrénaline, justement.
Ouais.
Il est télégénique et c'est comme ça qu'est née pour moi cette passion, parce que je ressentais des émotions à regarder une course, et le confinement aidant, j'ai voulu la création à fleur de peau, comme je dis, et j'ai voulu transmettre essayer de retransmettre ce que je ressentais à travers un jeu de société. Et je me suis attablé dès le début du confinement à ce projet.
Alors, tu dis le confinement aidant, dès le début du confinement, c'est vraiment pendant le confinement que l'idée a germé.
C'est ça, oui, parce que...
C'est les longues heures enfermées à la maison.
Ouais, oui, oui, malheureusement, ce Covid a beaucoup plus de désavantages, ouais, que celui de rester enfermé dans sa maison. Mais il m'a ouvert l'esprit de création, et je me suis dit... avoir un but pendant ce confinement, il faut que je trouve ce but, et ce but, ça a été celui-ci.
Et donc, tu as créé l'intégralité du jeu
complètement, de A à Z.
D'accord. Donc, en vrai, est-ce que tu sais à peu près combien de temps ça t'a pris à créer ce jeu?
Oh, ça m'a pris entre 18 et 20 mois, oui.
Ah, oui, oui, oui.
Oui.
Et donc tout ça, l'idée, elle a vraiment germé au tout début du confinement, parce que isolé, parce que fermé,
oui,
parce que moins de contact.
Oui,
quoi.
Bon, disons que
non, parce que c'est vrai. En fait, en vrai, la plupart des gens, ils ont rangé leur grenier, leur cave, leur placard, et
oui,
puis ils ont regardé Netflix.
Oui, oui, non, mais moi, c'était pas mon objectif. Bon, surtout, j'avais créé un jeu en 2008 qui s'appelait Leader One.
Oui, oui, donc biathlon est pas ton premier coup d'essai.
En 2008, j'étais co-auteur du jeu,
oui,
à cette époque, avec un ancien joueur professionnel, d'ailleurs de football, qui avait fait une partie de sa carrière avec moi.
D'accord.
Il y a eu des extensions, Hell of the North, Giro d'Italia, où on a été quand même, pour la centième du Giro, on a été le jeu présenté en Italie, puisque c'est un éditeur italien, Genos Game,
oui,
qui nous avait édité. Donc j'avais quand même ça dans la peau, et cette idée sur le biathlon m'était déjà apparue il y a quelques années, sans que je m'y penche réellement, et c'est vrai que le confinement a été ce qui m'a permis de me concentrer complètement, ouais, sur le sujet.
Donc c'est ton deuxième jeu sur la thématique du sport, parce que Leader, c'était sur les courses cyclistes.
C'est ça.
Eh bien, écoute Christophe, je te propose qu'on fasse tout de suite notre première pause musicale. On va écouter un petit morceau thématique de notre période de Noël, puisqu'on va écouter une chanson de Frank Sinatra qui s'appelle « Let it snow ». C'est parti.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
He doesn't care if it's 10 below. He's sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow.
Let it snow.
Ooh-wee, goes the star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow.
I don't care.
Yeah.
weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow,
let it snow.
When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm.
The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye.
Long as you love me so,
let it snow, let it snow, let it snow.
Et voilà, c'était Frank Sinatra avec Let It Snow. Donc de retour avec Christophe Leclerc, auteur de jeux, qui vient nous parler de son dernier jeu qui vient de sortir, qui s'appelle Biathlon Crystal Globe. Alors, quel est le principe de Biathlon Crystal Globe, Christophe ?
Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai essayé de me rapprocher au plus près de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une phase de ski de fond.
Oui.
Et puis une phase de tir,
oui.
Où là on demande de la concentration, il y a des choix stratégiques sur la piste, des choix stratégiques sur le tir. C'est pas un jeu de loi, chacun a son dé de déplacement, avec sa moyenne de déplacement, c'est-à-dire qu'il y a 3 coureurs dans une équipe. Un coureur qui va vite sur la piste, mais qui a des lacunes sur le pas de tir.
Oui.
Un coureur qui ne va pas vite, qui ne va pas très vite sur la piste, mais qui est un bon tireur.
Ouais.
Et puis il y a la moyenne des deux, celui qui est moyen un petit peu dans les deux domaines.
Et donc chaque joueur part avec ses 3 athlètes.
On peut jouer avec un seul joueur, on peut jouer de 2 à 12 joueurs.
On peut jouer de 2 à 12 joueurs, oui.
On peut jouer à 4 avec une équipe de 3.
Avec une équipe de 3, ouais, d'accord. Sinon, effectivement, à 12, chacun prend son athlète.
Prend son athlète, qu'on peut tirer au sort, puisqu'ils n'ont pas tous les mêmes caractéristiques.
Oui, tout à fait.
Il y a celui qui va vite et qui tire pas bien, celui qui va moins vite et qui tire bien, et puis il y a le biathlète moyen, donc on peut soit tirer au sort, soit chacun choisir à son tour celui qu'on prend. C'est très varié, c'est ça qui est avantageux. On peut jouer avec 2 coureurs, on peut jouer avec 3, on peut jouer voire avec 4, on peut adapter suivant le nombre avec lequel on se trouve autour de la table, en fait.
Alors, j'ai consulté un petit peu les règles, j'ai vu que tu avais prévu pas mal d'effets du type, par exemple, j'ai vu qu'il y avait un dé de météo qui se...
C'est ça.
Qui se tirait avant la partie pour savoir, ouais, la météo, donc durant le...
Le vent, surtout, est important,
ouais.
Au biathlon, puisque ça influe beaucoup sur le pas de tir, hein, s'il y a du vent ou pas.
Bien sûr. Donc j'imagine que les joueurs obtiennent des bonus ou des malus en fonction du dé de météo.
Il sera plus difficile de tirer si le vent est présent.
Ouais.
Les fautes seront plus nombreuses, donc les taux de pénalité seront plus nombreux. À vous de savoir si vous prenez le risque de faire un tir rapide,
ouais, ou un tir
ou
précis,
alors un
ouais.
tir posé et plus précis.
Donc j'ai vu que ça se découpe en 2 phases. La phase de ski de fond. Quelle mécanique de jeu tu as utilisée pour pouvoir créer de la compétition?
Alors la mécanique de jeu, il y a un dé de déplacement,
ouais,
qui ne varie pas beaucoup entre celui qui va très vite et celui qui va pas vite.
D'accord.
Ce ne sont des chiffres que de 3 à 5.
Ouais.
Répartis sur des dés à 12 faces. Donc ça fait une moyenne de 4,33, 3,66 et 4 pour l'intermédiaire au niveau du déplacement.
Ouais.
D'accord.
ouais, pas de souci.
On ne va pas de 1 à 6 ou de...
Ouais. Hein.
Donc, ajouté à ça, on a une énergie de départ,
oui,
qu'on utilise quand on veut, à bon escient.
Oui, j'ai vu qu'il y avait des cartes énergie, c'est ça ?
Il y a des cartes énergie. On a le droit à poser 2 cartes énergie à chaque déplacement, si on le souhaite ou pas.
Oui.
Si on souhaite faire une attaque, s'en aller, recoller à...
Au groupe.
Recoller au groupe. Donc il y a une stratégie de déplacement, parce que si on arrive à se placer dans le sillon d'un coureur qui vous précède, vous avez le droit à une aspiration, comme il se passe.
Bien sûr.
Donc vous récupérez un point d'énergie supplémentaire,
oui,
pour le tour d'après.
Ah, très bien.
Voilà, donc il y a une histoire de placement, de stratégie. Il y a des portions où il y a des côtes,
Ouais.
Donc là, dans ces côtes, c'est très important, parce que si vous attaquez dans la côte, vous allez dépenser de l'énergie, mais vous pouvez faire un trou et pouvoir, après, au pas de tir, si vous avez un peu d'avance, prendre
oui, c'est ça, oui,
plus
oui.
ou moins de risques ou pas.
Oui, oui, t'as anticipé, c'est-à-dire sur la partie ski de fond, on va trouver en plus de tout ça, en plus de l'énergie, en plus du déplacement aléatoire et en plus des compétences de l'athlète qu'on a choisi, enfin du biathlète qu'on a choisi, tu as anticipé qu'il pourrait y avoir des montées, des descentes, enfin bref, c'est pas un parcours plat. Donc,
Non, c'est un parcours qui est adapté à ce qu'on voit.
Oui, tout à fait, pour coller le plus possible
c'est ça, donc,
une vraie compétition.
On s'aperçoit qu'on a déjà mis le vent, les côtes, la stratégie de course, les descentes. Dans les descentes, si on prend un virage trop rapidement, on peut chuter.
Très bien, ouais.
Hein, puisque ça arrive aussi, ça. Donc tout ce que je retranscris là, c'est tout ce que j'ai vu, en fait.
Ouais.
Ce qui se passe dans une course de biathlon.
Ouais, tout à fait, ouais.
Tout en mettant... le plaisir de se retrouver l'un en face de l'autre et pouvoir s'affronter.
Ouais. Donc j'imagine que la phase de tir fonctionne un peu comme le ski de fond, c'est-à-dire que on a dit que nos athlètes avaient, il y en avait des performants, des moins performants et des moyens, on va dire. Et donc on peut faire le choix d'un tir précis en se concentrant ou un tir rapide en prenant le risque de louper la cible, j'imagine.
C'est ça. C'est-à-dire que la séquence de tir va se dérouler. De la balle la plus facile à tirer, qui est la première, puisqu'on vient d'arriver
ouais.
à la cinquième, et on va augmenter le pourcentage de risque d'échec
ouais.
si on tire les cinq balles à la suite.
Ah, d'accord.
Si on décide de n'en tirer que trois et de faire une pause, comme ils font les athlètes, ils souffrent derrière trois balles, on va passer un tour de jeu, mais quand on va retirer les deux dernières balles, on va redémarrer du dé le plus facile, entre guillemets.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a une notion de difficulté. Plus on tire vite, plus les durs de réussir.
Oui, bien sûr.
Donc, soit on prend le risque de tirer les cinq balles, et à ce moment-là, on repart immédiatement sur le parcours. Mais dans les cinq balles, on peut avoir fait deux fautes.
Mmh.
Soit on tire que trois balles, tout en sachant qu'on tire balle par balle.
Hein. Oui, bien sûr.
Il n'y a pas les 5 dés en même temps. Hein.
Ouais, ouais, ouais.
On tire sa balle, donc comme au biathlon, quand à la troisième balle, le biathlète manque,
ouais.
il fait une pause. Soit il continue dans la continuité, parce que sur le parcours, il a de l'avance.
Mmh.
Aussi, il peut regarder ce qui s'est passé devant lui ou ce qu'il y a derrière.
Mmh.
Il a un petit peu d'avance sur les autres, il ne va pas prendre de risque, donc il va passer un tour pour avoir deux balles plus faciles pour terminer. Donc il y a une notion de choix stratégique.
Il y a une gestion, effectivement. Eh ben, hâte de l'essayer. Franchement, sincèrement, hâte de l'essayer.
Ça sera avec plaisir.
J'ai vu que tu, en tout cas, j'ai vu les documents de promotion du jeu qui disaient qu'il y avait trois niveaux de jeu, le format ludique, tactique et stratégique.
C'est ça.
Qu'est-ce qu'on entend par là?
Alors, ce qui s'est passé quand j'ai fait le jeu, j'ai été au plus haut. Au plus haut, c'est-à-dire...
Le plus stratégique possible.
Le plus stratégique
avec
possible.
Le plus d'éléments possibles.
Voilà. Et là, à ce moment-là, je faisais le jeu pour moi.
Oui.
Je faisais pas le jeu pour les autres.
Oui.
Parce que mon objectif n'était pas forcément que ce jeu sorte. D'ailleurs, au départ, mon idée n'était pas du tout celle-là. Mon idée était de m'occuper.
Oui.
Et j'ai pas du tout fait ça pour que le jeu voit le jour dans le monde du jeu un jour. Donc j'avais fait quelque chose de qui m'apparaissait très sophistiqué et puis après je me suis posé la question en me disant et si je le faisais pour les autres le jeu plutôt que pour moi. Et à ce moment-là, ben j'ai descendu tous les niveaux.
Mmh.
J'ai enlevé au fur et à mesure des règles assez complexes pour arriver à une règle toute simple pour que les enfants puissent jouer
aussi
avec les parents en famille et je suis arrivé à quelque chose qui me paraît assez sympa et assez ludique pour les enfants.
Oui, alors j'ai vu que le jeu était à partir de 7 ans, du coup.
C'est ça, oui.
C'est une belle accessibilité.
C'est ça, parce que là, les enfants n'auront pas les cartes d'énergie à gérer.
Oui.
Ils pourront les jouer, mais elles seront devant eux. Ils les retourneront au moment où ils ont envie d'accélérer. C'est eux qui les retourneront. Ils ne géreront pas les points d'énergie. Ils auront le droit à deux cartes retournées.
Oui.
Et ils n'auront que l'aspiration à gérer.
D'accord.
C'est-à-dire que ça leur fera quand même un but de déplacement.
Oui. Mais ça fait effectivement beaucoup moins de notions tactiques et stratégiques à gérer, ou effectivement, à 7 ans, ça peut être un peu compliqué, ou fastidieux, tout simplement.
Voilà. Et du coup, j'ai fait des parties rapides où on peut faire sur un tour ou sur deux tours.
D'accord.
Ce qui permet aux enfants que ça soit pas trop long et qu'ils aient quand même le feeling un petit peu du tir.
Bon, c'est une super idée que tu aies décidé d'occuper ton confinement en créant un jeu. T'aurais pu faire un Pulse et on t'aurait jamais vu.
C'est ça.
Alors du coup, tu n'es pas le premier auteur de jeu que je reçois dans À quoi qu'on joue. Est-ce que tu peux nous dire comment on fait pour faire éditer un jeu, ou est-ce que tu as une recette secrète, ou comment ça se passe?
Alors non, je vais décevoir tous ceux qui sont créateurs et qui attendent que je leur donne si c'était le cas, je leur donnerais volontiers, hein, parce que plus de gens créent de jeux et plus c'est sympa. J'ai aucune recette, puisqu'au départ, je ne faisais pas le jeu pour ça.
Ouais.
Hein, et voyant mon projet évoluer au gré du temps, ayant fait un prototype sympa, parce que je crois que la première des choses, me semble-t-il, pour attirer les gens,
c'est de faire un proto, oui.
C'est de faire un proto sympa qui attire l'œil.
Oui.
Avant le contenu du jeu, je rentre dans une boutique de jeux, je me dirige tout de suite vers la boîte qui va m'attirer avec
bien
les
sûr,
bonnes couleurs
bien, sûr,
bien présentées.
Un réflexe de base maintenant.
De ma petite expérience d'auteur, c'est... Donc j'avais fait un beau plateau avec un graphiste de Nevers d'ailleurs qui s'appelle Cyril Berger.
D'accord.
Qui m'a fait mon graphisme plutôt bien réussi, bien sympa.
Qui est lui-même créateur de jeux à ses heures perdues.
Oui, c'est ça. Et un jour il m'a pris l'idée d'aller sur un site de biathlon.
Oui.
Qui s'appelle Passion Biathlon.
Oui.
Et puis j'ai pris une photo ou deux de mon prototype. Et puis j'ai envoyé ça comme ça. Futur projet de jeu,
ouais.
Complètement au hasard, et j'ai eu la chance, ce jour-là, qu'il y ait Didier Jacobé, éditeur de Sweet Games.
Et puis acteur du monde du jeu depuis des années, des années, des
acteur
années.
Acteur du monde du jeu qui a fait des choses assez... qui a été as d'or à Cannes, qui a...
Donc Didier Jacobi, qui a été auteur de jeu, mais qui a aussi monté plusieurs maisons d'édition, qui a été pas responsable, mais quasiment responsable chez Tilsit, à la grande époque de Tilsit. Enfin, il a un CV ludique impressionnant, ce monsieur. Oui.
Il était rédacteur en chef
à Jeu et Stratégie, tout à fait.
À Jeu et Stratégie. Donc ce monsieur, passant sur le site de biathlon, parce qu'il aimait ça, est tombé sur mon prototype et m'a contacté.
Ah oui, c'est une sacrée coïncidence. Les étoiles se sont bien alignées,
oui. Oui, c'est ça. C'est complètement le hasard.
Ouais, bien sûr, je comprends.
J'ai fait aucune démarche vers les éditeurs, ni rien. Je sais même pas si je l'aurais fait d'ailleurs.
Ouais.
Il s'est trouvé le hasard complet et m'a contacté.
C'est vrai que c'est bien tombé que Didier Jacobi ait une maison d'édition, qu'il édite quelques jeux.
Et
alors,
puis qu'il
ait
flashé sur le... Bon, il me l'a dit lui-même, il a flashé sur le visuel du prototype. Et après, bon, il avait dans l'idée aussi, lui, de faire quelque chose sur le biathlon, m'a-t-il dit après.
D'accord.
Donc il était content, mais ça l'embêtait un petit peu quand même, parce qu'il est auteur de jeux. Et puis, il a été curieux tout de suite de voir comment j'avais pu faire évoluer mon plateau à travers un jeu. Et puis, ça l'a séduit beaucoup. Et très vite, il est venu me rencontrer sur Nevers.
Ouais.
Et il m'a dit « Banco, on y va ».
Ah, ouais, d'accord.
Il m'a dit « Banco, on y va », tout en sachant que les éditeurs mettent 18 mois pour créer un jeu.
Ouais.
Ceci s'est passé au mois de mars et il a dit « je prends le challenge de le sortir pour Noël ».
D'accord.
Donc c'est quelque chose de très rare.
Ouais, c'est super rapide, oui.
C'est très très rare, donc il avait déjà une douzaine de jeux qu'il allait éditer dans l'année. Ça lui a fait un boulot considérable pour continuer cette aventure et je l'en remercie. Bon, alors après, c'est... Moi, j'ai beaucoup œuvré un petit peu une fois que ce contrat a été signé, dans la promotion du jeu. J'ai pris ma boîte de jeu, je suis parti à Chambéry et à Annecy. Ça m'a permis de me présenter au Martin Nordic Festival Fourcade.
Ouais.
Le 3 septembre, où je suis allé, j'ai été reçu par la société EcoSport qui a cru en mon jeu et qui m'a prêté une place dans sa tente sur ce site.
Ouais.
Où il y avait quand même 20 000 personnes. J'ai eu la chance de passer la soirée avec Martin Fourcade.
D'accord. Alors, pour nos éditeurs qui connaîtraient pas Martin Fourcade, il a un nombre de titres au niveau champion du monde.
13 fois champion du monde, 7 voilà. fois champion olympique.
Voilà. De biathlon, bien évidemment. Hein.
Ouais. Donc, ça m'a permis aussi, c'est assez salvateur pour sa vie personnelle, de découvrir un autre monde. De passer du temps dans une autre bulle, parce que c'est une bulle de biathlon, avec des gens relativement frais et abordables, ça fait du bien.
Ouais. Tout à fait. Bon, bah oui, alors donc, une des belles coïncidences, et du coup, ça a issu de belles rencontres, c'est génial.
Ah oui, c'était déjà ma récompense. Je suis déjà récompensé par ce que j'ai fait.
La date de sortie du jeu.
Oui, alors, je sais qu'il y a eu quelques problèmes aux douanes, parce que dans les douanes, actuellement, dans le transport de pièces, il manquait les dés, je crois, ou les socles. Dans la boîte, mais tout le reste est fait et j'espère avoir aujourd'hui ou demain des nouvelles.
Et oui, alors parce que quand on sort un jeu, quand on édite un jeu, vous imaginez bien qu'avant que vous soyez dans votre salon en train de déballer la boîte, il y a tout un processus qui veut que les boîtes soient imprimées, que le matériel de jeu, donc les pions, les jetons, les dés, le plateau, les cartes, les règles et tout ce qui va avec soit fait par des imprimeurs, parfois des imprimeurs différents, et il y a quelqu'un qui s'occupe de centraliser tous ces éléments, de les mettre dans la boîte, de fermer la boîte et de la mettre sur une palette pour que ça arrive jusque dans nos magasins et après dans nos salons. Donc tout ça, c'est un processus très lent et l'industrie du jeu a rencontré cette année, en tout cas depuis septembre, des pénuries de matières premières comme dans plein d'autres industries. Vous en avez peut-être entendu parler aux infos. Par exemple, dans le monde du jeu, on a manqué de papier et de carton pour fabriquer les jeux. Et d'ailleurs, certains éditeurs ont justifié des hausses de prix pour les fêtes de Noël à cause de ça. Et il y a des jeux de plateau qui sont un peu plus chers chez certains éditeurs cette année. Donc voilà, c'était pour la petite histoire. Bien, je vous propose qu'on fasse un deuxième interlude musical. Et cette fois-ci, on va écouter une chanson toujours de Noël de Bobby Helms qui s'appelle bien évidemment Jingle Bells Rock. C'est parti.
Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock.
Et nous voilà de retour avec Christophe Leclerc qui est venu nous parler de son jeu Biathlon Crystal Globe. Alors Christophe, où est-ce qu'on peut trouver ton jeu ?
Alors, sur Nevers, le magasin Jean de la Lune va vendre ce jeu dès sa réception, ce que j'espère dans quelques jours.
Voilà, donc au moment où vous entendrez cette émission, normalement, ça devrait déjà être sur les étals. Et donc, j'imagine qu'on peut le commander aussi sur Internet, directement sur le site de l'éditeur.
Tout à fait, donc c'est sweetgames.fr ou multivers.fr.
Voilà, parce qu'il y a deux, enfin, c'est pas qu'il y a deux éditeurs, mais il y a deux noms quand même, puisque...
C'est ça, Multivers venant de se créer, voilà. N'étant pas prêt pour recevoir toutes les plateformes de jeux.
Bien sûr.
C'est dirigé sur Sweet Games, dans un premier temps.
Ce que tu m'expliquais pendant la pause musicale, c'est que Sweet Games, c'est l'éditeur actuel, mais Multivers va être spécialisé un peu sur les jeux en lien avec le sport et tout ça.
C'est ça.
Voilà. Et donc au prix de 49,90€.
C'est le prix public annoncé, oui.
Voilà. Donc je rappelle donc Biathlon Crystal Globe, édité chez Sweet Game pour des joueurs de 7 ans et plus et de 2 à 12 joueurs. Ce sera dans votre boutique préférée à Jean de la Lune pour les fêtes de fin d'année. Merci Christophe, je reviens vers toi en toute fin d'émission.
Avec plaisir.
Donc vous le savez, à chaque fin d'émission, traditionnellement, je vous donne le programme des animations à venir pour le mois suivant. Mais pour aujourd'hui, je vais vous annoncer les temps forts du programme 2022 du Conservatoire du Jeu, puisqu'il est sorti ces derniers jours. Alors, avant de rentrer dans le programme en détail, juste vous dire qu'on a quand même un petit caillou dans notre chaussure pour 2022, puisque traditionnellement, début février, on organise nos geekeries de Nevers. Elles n'ont pas eu lieu en 2021 pour cause de pandémie et elles n'auront pas lieu non plus en 2022 pour les mêmes raisons sanitaires à cause du Covid, tout ça. Mais on revient à coup sûr, en tout cas si le virus nous le permet, en 2023 avec cet événement-là. En attendant, on a prévu d'autres choses puisque si on n'organise pas nos gros geekrides de Nevers au Centre Expo, on va vous proposer d'autres activités où le public va pouvoir participer de près ou de loin. Tout d'abord, fin février, nous allons reprendre les tournage d'archéoludique. Alors pour les auditeurs qui ne se rappelleraient pas ou qui ne sauraient pas ce qu'est archéoludique, archéoludique est notre émission YouTube qui parle de l'histoire du jeu. Chaque émission concerne l'histoire d'un jeu en particulier ou d'une pratique ludique. On reprend les tournages, on va finir les épisodes de notre première saison qui avait été donc interrompue pour des raisons sanitaires également. On recherche donc pour le week-end du 26 et du 27 février des figurants. On va tourner un à deux épisodes si on le peut sur le week-end, un qui traitera d'un jeu vidéo et un autre qui traitera d'un jeu de rôle. Le 3 avril, vous pourrez nous retrouver au théâtre municipal de Nevers pour une scène de crime exceptionnelle. Il n'y aura que deux sessions et deux sessions uniquement. Une scène de crime sur une thématique fantasmagorique, une histoire de fantômes dans le théâtre et la ville de Nevers et le théâtre municipal nous ont mis tous les locaux à disposition. Ça va être l'occasion pour le public de découvrir des parties du théâtre municipal qu'on n'a jamais l'occasion de voir. Et puis le samedi 28 mai 2022, ce sera le grand retour de la fête du jeu au parc Roger Salon. En gros, vous le savez, chaque année, le Conservatoire du Jeu organise la fête du jeu directement en bas du parc Roger Salengro. Vous pourrez retrouver durant cette journée festive du jeu traditionnel, du jeu de plateau, du jeu vidéo, du jeu de cartes, du jeu de figurines et la plupart des acteurs locaux du monde du jeu, les associations de la région de Nevers. Bref, on va inviter tout le monde comme tous les ans. On vous reparle bien évidemment de tout ça sur nos réseaux sociaux. Alors, je vous en dis pas plus. Vous imaginez bien qu'on a tout un tas d'autres projets. Certains, on vous en parlera assez rapidement. D'autres, on les garde en attendant de voir si la situation sanitaire nous permet de les réaliser. Bien évidemment, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et pourquoi pas Twitter. Mais également, n'hésitez pas à les consulter, la page du programme des animations et des activités de l'événementiel sur le site internet du Conservatoire du Jeu à leconservatoiredujeu.fr. Notre émission se termine. Christophe, un mot pour la fin ?
Écoutez, je suis ravi d'avoir fait ta connaissance.
De même. Je crois qu'on est contents tous les deux de s'être rencontrés.
Dans un premier temps, et puis de savoir qu'il y a tant de choses d'organiser autour du jeu dans ma région, c'est une super nouvelle.
Oh, puis je pense qu'on se reverra sur certains de nos événements prochainement.
Avec plaisir.
Merci Christophe d'avoir été mon invité pour cette 33e émission de À quoi qu'on joue. Et dernière de l'année bien évidemment. Vous pourrez retrouver toutes nos émissions sur le podcast de Bac FM sur bacfm.fr, mais aussi sur la chaîne YouTube du Conservatoire du Jeu. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain, même heure, même endroit. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. Et surtout, rappelez-vous, soyez ludiques.